aujourd'hui à Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Du jeudi 21 juin 2018, Eric Manilakidza en direct de Washington. D'abord les titres. Au Nigeria, deux femmes kamikazes ont tenté d'attaquer un marché proche d'une base militaire à Maïdougouri. 15 personnes ont été blessées. Dans le nord de la République centrafricaine, des affrontements meurtriers ont opposé deux groupes armés qui sont d'ordinaire alliés. Rencontre aujourd'hui à Addis Abeba entre le président Salva Kiir et le rebelle Riek Machar qui se sont déjà vus hier soir. L'armée égyptienne affirme avoir tué 32 djihadistes dans le Sinaï. Le pape François à Genève pour promouvoir le dialogue et l'unité avec ses frères protestants et orthodoxes. Dans 10 minutes, votre rendez-vous du journal du Mondial 2018 en Russie. La France est le deuxième pays qualifié pour les huitièmes de finale après la Russie et l'Uruguay. Vous aurez les détails de Yacouba Ouédraogo. Dans le nord-est du Nigeria, 15 personnes ont été blessées par deux femmes kamikazes qui ont tenté d'attaquer un marché proche d'une base militaire. Le point avec Morgane Guiriec.
Des soldats ont tiré sur une femme qui tentait d'entrer dans le marché près de la base d'artillerie de Maïdougouri. Edet Okon, porte-parole de l'état de Borno, précise que les explosifs qu'elle portait ont détonné quand elle a été touchée par les tirs. Une autre femme s'est fait exploser dans un rickshaw, tricycle utilisé dans les transports publics. Les deux femmes sont mortes sur le coup et 15 personnes ont été blessées. Les marchés sont souvent la cible d'attaques suicides, souvent menées par des femmes ou des jeunes filles. Lundi, 9 soldats ont été tués à Maïdougouri lors d'une attaque attribuée à Boko Haram. Les fêtes de la fin de Ramadan ont aussi été endeuillées par plusieurs attaques qui ont fait au moins 43 morts.
Morgane Guiriec, un projet de résolution de l'ONU préparé par la France a exhorté le Mali a réalisé des progrès substantiels vers la paix. Le texte renouvelle pour un an la mission de sa force de casquets bleus, dont la sécurité devra être renforcée. Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies devraient l'adopter d'ici fin juin. La MINUSMA compte quelques 15 000 casquets bleus et 104 militaires ont été tués depuis leur déploiement en 2013. Le gouvernement ivoirien a expulsé tous les habitants qui vivent dans des zones à risque à Abidjan. Les inondations ont fait 18 morts à Abidjan et 20 morts dans tout le pays dans la nuit de lundi à mardi en raison de pluies torrentielles. 138 familles ont été sinistrées dans ces inondations dans tout le pays. Ces pluies exceptionnelles étaient d'un niveau 5 fois supérieur au seuil d'alerte. En Centrafrique, des affrontements ont éclaté hier soir à Ndélé. Dans le nord du pays, ces combats entre deux groupes armés issus de l'ex-rébellion Séléka dominante musulmane ont fait plusieurs morts, n'est-ce pas, Idriss Fall?
Selon Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique FPRC et le mouvement patriotique pour la Centrafrique MPC ont combattu durant une heure. Depuis, la situation s'est calmée, a-t-il ajouté. Il n'y a pas de bilan précis, mais des témoins affirment que plusieurs civils et combattants ont perdu la vie. Des mésententes entre Arabes et Rungas, les deux groupes ethniques associés au MPC et FPRC, ont dégénéré en affrontements. Ndélé est l'une des bases du FPRC présent dans le nord-est du pays, tandis que le MPC est établi dans le nord-ouest le long de la frontière avec le Tchad. À la mi-avril, ces deux groupes armés d'ordinaire alliés avaient tenu une réunion à Kagabandoro pour mettre en place une coordination militaire. Ils avaient même menacé de descendre sur Bangui à la suite des affrontements meurtriers à PK5, le quartier musulman de Bangui.
Idriss Fall, au Tchad, magistrats, avocats, notaires et huissiers de justice ont annoncé qu'ils arrêtaient leur mouvement de grève entamé fin mai. Ils protestaient contre des violences dont un avocat et ses clients avaient été victimes dans le sud du pays. La RDC perd 15 milliards de dollars par an en raison de la corruption qui mine ce pays, a affirmé un conseiller du président Joseph Kabila. Le budget 2018 de la RDC s'élève à environ 5 milliards de dollars et la moitié est financée par des partenaires de Kinshasa. Le produit intérieur brut s'établit à quelque 40 milliards de dollars, presque 10 fois moins que le Nigeria, première économie du continent. Il est de 450 dollars par an et par habitant. La grande majorité des 70 à 90 millions de Congolais vit dans la pauvreté. Le Japon a alloué un montant de 700 000 dollars au Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF pour lutter contre le virus Ebola en RDC. La justice française a confirmé aujourd'hui le non-lieu accordé à Wenceslas Munyeshaka, un prêtre rwandais installé à Normandie. Il était visé par la plus ancienne plainte en France concernant le génocide de 1994 au Rwanda. Rencontre aujourd'hui dans la capitale éthiopienne entre les dirigeants de l'Afrique de l'Est pour donner une nouvelle impulsion au processus de paix au Soudan du Sud. Le premier tête-à-tête en deux ans entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le rebelle Riek Machar a eu lieu ce mercredi soir. Ils ont répondu à l'invitation du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, président de l'IGAD, qui œuvre à réactiver le processus de paix. D'après l'armée égyptienne, 32 djihadistes ont été tués dans le Sinaï. C'est le bilan de l'opération lancée depuis février contre la branche locale du groupe État islamique. Les précisions de Irène Herman Ungbo.
L'offensive lancée par l'armée égyptienne a permis d'exterminer 32 éléments de la branche locale du groupe État islamique dans la province du Sinaï. Selon l'armée égyptienne, en dehors de ces takfiris, ce qualificatif pour désigner les djihadistes, 12 autres ont été arrêtés. Les forces de sécurité ont également saisi des armes et des munitions dans des repères et dépôts des djihadistes. L'armée mène depuis le 9 février une vaste opération baptisée Sinaï 2018 qui vise à nettoyer le nord et le centre du Sinaï du terrorisme. La péninsule est le théâtre d'une insurrection d'une branche locale du groupe État islamique. Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sissi avait donné 3 mois à ses forces de sécurité pour rétablir la sécurité dans la région. Ce délai a été depuis prolongé.
Irène Herman Ungbo. L'Égypte défend un règlement juste et global du conflit israélo-palestinien. Le président Abdel Fattah al-Sissi l'a signifié aux émissaires du président américain Donald Trump en tournée au Moyen-Orient. Monsieur Sissi a défendu la solution à deux États sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État de la Palestine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François a prôné à Genève l'unité des chrétiens opposée aux guerres et aux divisions qui affectent les plus faibles dans le monde, après une prière commune aux côtés de protestants et d'orthodoxes. Le souverain pontife a accepté une invitation du Conseil œcuménique des églises qui fête ses 70 ans et représente 350 églises et quelques 500 millions de protestants et d'orthodoxes. Les détails avec Lionel Lunaniragahima.
Accompagné dans la chapelle du centre œcuménique de Genève, l'évêque méthodiste américaine Mary Ann Swenson a participé à son arrivée à une prière œcuménique aux côtés de 230 participants, le pape François. Que les distances ne soient pas des excuses, il est possible de marcher selon l'esprit, prier, évangéliser, servir ensemble. C'est possible à partir d'aujourd'hui. Ça devrait plaire à Dieu. C'est notre chemin aujourd'hui. François a déploré une planète où les enfants et les personnes âgées deviennent des déchets dérangeants. Les rapports désormais plus apaisés avec les orthodoxes et les protestants s'inscrivent dans le contexte de persécutions ou des attaques terroristes contre des chrétiens, notamment au Proche-Orient.
Lionel Gahima, le président sud-coréen Moon Jae-in est arrivé aujourd'hui en Russie pour rencontrer demain le président Vladimir Poutine. Ils vont notamment discuter d'éventuels pourparlers trilatéraux avec la Corée du Nord et du renforcement des liens économiques. Le conseiller américain à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, se rendra la semaine prochaine à Moscou. C'est pour évoquer une possible rencontre entre le président américain et son homologue russe, Vladimir Poutine. Le président américain a mis fin à la séparation des familles entrées illégalement aux États-Unis. Les familles éclatées devraient mettre du temps à être réunies. Les enfants ont été placés dans des centres en application de la politique de tolérance zéro pour tenter de dissuader les candidats à l'immigration aux États-Unis. Et la première dame s'est rendu justement à la frontière avec le Mexique. Les services de communication de la Première Dame ont précisé qu'elle allait notamment se rendre dans un centre qui héberge des enfants et sur un site des gardes frontières. La Première Dame s'appelle Melania Trump. La Chambre américaine des représentants tente de réformer la loi sur l'immigration, mais les divisions internes des républicains et l'opposition frontale des démocrates menacent toute avancée. Le Portugal enverra une équipe en Égypte pour sélectionner des candidats à l'asile en juillet. D'ici l'année prochaine, le pays est prêt à accueillir 1010 personnes. Lisbonne répond au programme de réinstallation de réfugiés voulu en janvier par la Commission européenne. Il vise à accueillir dans l'Union européenne en 2 ans au moins 50 000 de réfugiés venant d'Afrique, du Moyen-Orient et de la Turquie. Le président français Emmanuel Macron a défendu sa politique migratoire médiane. Il a dénoncé la lèpre qui monte en Europe, le nationalisme qui renaît, la frontière fermée que certains proposent et ceux qui trahissent même l'asile, tout en revendiquant de ne pouvoir accueillir tout le monde. Voilà pour le journal. Maintenant, votre rendez-vous du mondial, signé Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du mondial. Une courte victoire pour les Bleus lors de leur deuxième sortie contre le Pérou, 1-0, suffisant pour les propulser en huitième de finale, avec à la clé un record pour l'unique buteur de la rencontre. À 19 ans et demi, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune buteur français dans un tournoi majeur, Coupe du Monde ou Euro. Mbappé a marqué de près à la 34e minute après une frappe d'Olivier Giroud déviée par un pied pérouvien. L'attaquant du PSG a inscrit ainsi son 5e but en 17 sélections. Avant ce match, France-Pérou, toujours dans le groupe C, le Danemark et l'Australie ont fait match nul 1-1. Christian Eriksen a ouvert le score pour le Danemark dès la 7e minute d'une superbe volée sous la barre. À la 38e, faute de main dans la surface de réparation danoise, l'arbitre fait recours à la vidéo-assistance pour confirmer la faute. Le capitaine australien Miles Jedinak, déjà buteur contre la France, transforme sans trembler pour le 1-1. Un match nul qui permet au Danemark de se rapprocher davantage de la qualification en 8e de finale, avec désormais 4 points juste derrière la France déjà qualifiée. Suivent l'Australie avec un seul point et le Pérou éliminé de la compétition avec ses 2 défaites en autant de sorties. Demain vendredi, un représentant africain refait surface pour sa 2e sortie. Il s'agit du Nigeria de John Obi Mikel. Les Super Eagles n'ont d'autre choix que de gagner pour se donner plus de chances de voir les 8e de finale. L'effet climat s'est invité en conférence de presse d'avant-match. Le sélectionneur de l'Islande pense que jouer sous 30 degrés Celsius est plutôt un avantage pour le Nigeria. Haimir Hallgrimsson.
Nous avons joué dans la chaleur contre l'Argentine. C'était une étape difficile. Il fait un peu plus chaud ici. C'est probablement mieux pour le Nigeria que l'Islande que de jouer dans cette chaleur à cette température. Mais nous penserons à la température pour peaufiner notre stratégie. Tout compte fait, tout le monde doit jouer sous les 30 degrés Celsius. Alors nous devrons simplement faire comme tout le monde.
C'était donc Haimir Hallgrimsson, le sélectionneur de l'Islande. Nigeria-Islande, c'est justement à 15h temps universel, puis à 18h, Suisse et Serbes croiseront les crampons. Mais bien avant ces 2 matchs, on aura droit à un duel américain-Brésil-Costa Rica à midi temps universel. Touché hier à l'entraînement, la star du Brésil Neymar Junior se dit tout de même apte à jouer. Il ne pense qu'à la victoire. Écoutons Neymar.
Nous avons de grosses attentes pour le 2e match contre le Costa Rica. Nous espérons faire mieux que nos débuts et nous voulons gagner. Nous allons à ce match pour gagner et jouer très bien.
Un match que va suivre Sepp Blatter, ex-président déchu de la FIFA, invité spécial du président Vladimir Poutine. L'ancien patron du football mondial se sent bien accepté malgré le scandale de corruption qu'il a éjecté du siège du président de la FIFA. Sepp Blatter.
J'ai été invité par la Russie pour venir ici et puis ils m'ont fait un programme. Je suis le programme. Alors je suis arrivé, on a vu le match. Je pars sur Saint-Pétersbourg, je vais voir Brésil-Costa Rica, puis après je rentre. Mon président me mettait dans une voiture, on me transportait à droite, à gauche et là je suis là-dedans. Je rencontre des Sud-Américains, des Africains, de tout. Et puis ils disent « Ah, mais c'est Blatter, c'est émotion pure. » Et voilà, c'est ce qui est le football. parole et ça me fait beaucoup de plaisir de dire bah, il vit encore, il est encore là. Je me sens un peu suspendu par cette commission d'éthique de la FIFA, mais quand je viens ici, je me sens accepté.
C'était donc Sepp Blatter, ex-patron de la FIFA. Ainsi va le foot, c'est ici que s'achève ce journal du Mondial.
Et l'Albi Céleste, l'Argentine croise le fer avec la Croatie, un match capital pour Messi à Cuba. Merci. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour développer les dossiers du jour. Le chef de file de l'opposition nigérienne, Ama Amadou, est déchu de son statut de député national par arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en début de semaine. Cette autre décision de justice concernant l'ancien président du Parlement remet sur la table la question de sa candidature aux élections présidentielles prévues en 2021. Notre correspondant au Niger, Abdelrazak Idrissa, a recueilli quelques réactions résumées dans ce reportage. Suivez.
Au niveau du parti de M. Ama Amadou, c'est sans surprise que cet arrêt de la Cour constitutionnelle est accueilli. Bana Ibrahim, un des responsables de la jeunesse du moderne FA Lumana.
Ama Amadou n'a jamais siégé à l'Assemblée puisqu'il était à l'extérieur quand il a été élu. Il n'a profité d'aucune immunité politique liée à son statut de député. Il n'a bénéficié d'aucun émolument en tant que député. Mais puisqu'on veut continuer à le harceler, on va jusqu'à faire une parodie pour pouvoir demander à la Cour, la même Cour qui a rendu un arrêt en 2017, dans laquelle la Cour elle-même a reconnu, lorsqu'il était question d'apprécier le code électoral, que la condamnation par contumace ne peut être regardée comme une condamnation définitive. Donc l'un dans l'autre, ça ne nous surprend pas. Nous sommes dans un pays où nous avons fini depuis longtemps d'intégrer dans notre conscience et dans notre discours qu'il n'y a pas de justice au Niger.
Malgré toutes ces décisions de justice, Ama Amadou persiste et signe qu'il se présentera aux élections à venir, pas plus qu'au mois de mai dernier, à l'anniversaire du parti. Il a réaffirmé cela à ses militants depuis la France où il vit en exil.
Je l'affirme et le réaffirme avec force. Vous m'avez désigné comme votre candidat de 2021. Je serai, par la grâce de Dieu, candidat. Personne sur terre ne saurait l'empêcher ou il sera lui-même empêché. Que rien ne vous inquiète et ne vous perturbe par conséquent.
Pourtant, selon les spécialistes du droit, même sans cet arrêt de la Cour constitutionnelle, une candidature du chef de file de l'opposition à la présidentielle de 2021 est déjà compromise par sa condamnation dans l'affaire du trafic de bébés. Amadou Boubacar Hassan, juriste constitutionnaliste.
Ce qu'il faut retenir, même si aujourd'hui la Cour n'a pas constaté la déchéance de sa qualité de membre de député, à partir du moment où la condamnation est devenue définitive suite à l'arrêt de la Cour de cassation, conformément à l'article 8 du Code électoral, M. Ama Amadou ne peut pas être inscrit sur la liste électorale, a fortiori être éligible. Donc, de ce point de vue, pour les élections à venir, M. Ama Amadou ne peut pas être éligible. Lui, avec ce arrêt de la Cour constitutionnelle, M. Ama Amadou est déchu de son mandat parlementaire. Il n'est plus député et par conséquent, il ne peut plus. Il a perdu tous les droits qui sont attachés à la qualité de député, que ce soit l'immunité et tout ce qui s'ensuit.
Abdelrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Morgan Guiriac, en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, gros plan sur la République démocratique du Congo. À 6 mois des élections, le Parlement a ouvert une session extraordinaire ce mercredi à la demande du président Kabila. Et députés et sénateurs doivent débattre du projet de loi sur le statut des anciens chefs d'État, un texte qui pourrait garantir leur sécurité, celle de leur famille et de leur patrimoine. À l'approche des élections, que signifie ce projet de loi sur le statut des ex-présidents? Est-ce un signe que Kabila entend quitter le pouvoir? Le pays est-il prêt pour la tenue des élections? On en discute ce jeudi à 19h temps universel.
En Côte d'Ivoire, 48 heures après les inondations qui ont fait 20 morts et d'importants dégâts matériels, le président Alassane Ouattara a rendu visite cet après-midi aux sinistrés. Des sinistrés toujours en état de choc, raconte Georges Ibrahim Tunkara, le correspondant de VOA Afrique à Abidjan.
Rentré précipitamment mercredi nuit de Paris où il se trouvait, le président ivoirien était ce jeudi sur le terrain pour apporter son réconfort aux victimes des inondations de ce début de semaine. À la Riviera Alaba, l'un des quartiers durement frappés par les averses qui se sont abattues sur Abidjan, les populations ont du mal à réaliser ce qui leur est arrivé dans la nuit de lundi à mardi. Diallo Mariam, la quarantaine révolue, dit avoir tout perdu.
On a tout perdu en fait, on n'a plus rien, 24 ans de vie, il n'y a plus rien. En une nuit, tout est fini, on était sous le manguier de 3h à 7h du matin. On a tout perdu, il n'y a plus rien.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État, du président qui est venu vous voir?
Qu'il nous aide à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ça se répète. Déjà ça, parce qu'il y a, ma voisine qui est décédée, qui a été emportée par l'eau. Et voir ce qu'il peut faire pour nous, parce qu'il y a les enfants, on a tout perdu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire.
Hippolyte Kwame est fonctionnaire. Assis devant le peu d'objets qu'il a pu extraire des eaux, il se demande de quoi demain sera fait. Il dit attendre de l'État que des mesures vigoureuses et durables soient prises pour que pareil désastre ne se reproduise plus.
Aujourd'hui, psychologiquement, nous sommes très affectés. Et moi particulièrement, j'ai pratiquement tout perdu. J'ai pratiquement tout perdu, mes parents, ils ont tout perdu. Et aujourd'hui, nous sommes complètement abattus. Abattus et très découragés parce que là, il faut reconstruire encore. C'est ce qui nous... C'est en fait c'est cette crainte-là.
Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État?
Moi, personnellement, comme je le disais à tous les jeunes ici, je leur disais que concrètement, ce que j'attends, c'est qu'il y ait en fait de nouvelles voies de canalisation qui soient ouvertes et qui ne soient pas orientées vers notre cité. Si, au niveau de l'État, ils peuvent essayer d'ouvrir de nouvelles canalisations qui seront orientées ailleurs, ce serait en fait l'idéal pour nous.
Le gouvernement a annoncé une aide de 2 milliards pour les victimes de ces inondations. De nombreux Ivoiriens sont également mobilisés pour apporter de l'aide aux sinistrés. Il s'agit surtout de vivres, de vêtements, de bouteilles d'eau minérale et de médicaments. Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, les personnes handicapées physiques subissent l'absence d'une loi qui les protège. Elles sont victimes de plusieurs formes de discrimination, exposées aux railleries, préjugés et stéréotypes. Si ces personnes sont compétentes, elles ont très peu de chances pour d'être recrutées. Malgré toutes ces difficultés, certains handicapés s'en sortent, comme le raconte Zakaria Camara. À Conakry.
Dans les rues de la capitale ou encore devant les mosquées, de nombreuses personnes à mobilité réduite investissent des espaces pour y mener une activité de mendicité. Elles se disent victimes de discrimination et ne comprennent pas pourquoi aucune loi spécifique ne les protège. Omar a perdu l'usage de ses membres inférieurs, même s'il ne manque pas de volonté de travailler. Se déplacer reste un calvaire pour lui.
Chacun de nous sont logés très loin quoi, d'ici. Quoi. Le matin, quitter là-bas, de se rendre au service, ça a tout à fait problème. Il y a plein d'embouteillages. Puis, il y a d'autres aussi qui refusent de prendre nos amis handicapés, de les rendre là où ils vont. Quoi. Nous avons énormément de problèmes.
Vivre avec un handicap physique à Guinée, c'est souffrir le martyr, dénoncent tous. Ces personnes ne sont pas parmi les priorités des recruteurs en dépit de leurs compétences. Omar est membre d'une association pour la protection des handicapés. C'est dans un conteneur installé en face des bureaux de la mairie de Matoto que différents métiers sont exercés. Devant sa machine à coudre, ma camarade n'entend pas se retrouver à la rue. Je fais la couture pour éviter de faire la mendicité. Je préfère vivre de mon métier. Nous faisons beaucoup de choses ici, comme le tricotage. Face au vide juridique, certaines personnes handicapées tentent du mieux qu'elles peuvent pour sortir d'une situation de précarité. Ibrahima Diané est le président d'Action pour le futur des personnes handicapées en Guinée. Selon lui, on peut réussir même avec un handicap physique.
En Afrique, plus particulièrement en Guinée, une fois qu'on est handicapé, donc on est foutu, on n'a pas de droit, on n'a aucune considération. Partout où vous passez, vous verrez les personnes handicapées au bord de la rue pour faire que la mendicité. Mais nous, on s'est dit non, l'handicap n'est pas synonyme de la mendicité. Un handicap n'est pas une fatalité. On peut être handicapé, être utile pour soi, être utile pour ta famille, être utile pour ta nation.
L'ensemble des personnes à mobilité réduite attend l'adoption d'une loi qui devrait corriger une forme d'injustice silencieuse. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
RDC, 26 cas de polio enregistrés ces derniers mois sont des dérivés du vaccin administré à des millions d'enfants. La maladie a pourtant déjà été éradiquée dans le pays. Eddie Sango a joint à Kinshasa le directeur du programme élargi de vaccination, le docteur Guillaume Ngoyi Mwamba.
C'est une situation de mutation des virus, des souches qui sont utilisées dans le vaccin contre la polio, la souche du type 2 utilisée dans le vaccin polio oral qui arrivait au niveau des populations qui ont une insuffisance immunitaire collective peut arriver à se comporter maintenant comme étant des sauvages.
Est-ce qu'il y a un autre facteur qui favorise cela aussi?
Chaque corps ne se comporte pas de la même manière lorsqu'on introduit une substance étrangère. De la même manière, le vaccin, lorsqu'il est introduit dans le corps humain, donc chacun réagit de sa façon pour convertir en une immunité, en une protection.
Mais là, on parle de dérivation.
Lorsqu'on parle du virus dérivé de la souche vaccinale, donc c'est-à-dire le virus qui est dans le vaccin, il est là pour protéger, pas pour créer la maladie. Maintenant, dans les conditions précaires telles que nous avons dit, donc des mauvaises protections de la communauté lorsque la communauté n'est pas vaccinée, lorsque on vient vacciner les populations qui ne sont pas à même de convertir le virus du vaccin en une protection, ce virus peut faire une mutation et se comporter d'une autre manière lorsqu'il arrive au niveau du tube digestif de ces enfants-là.
Comment managez-vous cette information de mutation de virus des souches vaccinales avec toutes les appréhensions qu'il y a autour de la vaccination?
Cette mutation se fait dans un environnement de faible immunité collective. C'est-à-dire qu'à des endroits là où nous n'avons pas pu vacciner un grand nombre d'enfants. On n'arrive pas à vacciner tous les enfants. Comme vous savez, il y a des enfants qui vivent dans des situations géographiques d'accès difficiles. Parfois, ils ne sont pas couverts. Il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés, tout simplement parce que les parents refusent la vaccination sous le label des sectes religieux. La solution, c'est la vaccination. On doit d'abord vacciner et protéger une masse importante d'enfants pour espérer arrêter ces poliovirus dérivés de la souche vaccinale.
Docteur Guillaume Ngoyi Mwamba, directeur du programme élargi de vaccination à Kinshasa.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ouais, tout de suite, le troisième match du Mondial 2018 de ce jeudi. L'Argentine contre la Croatie. Un match très capital pour Lionel Messi. Pour rester dans la course. C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Nachuan Kale. Georges Léonard Sagnon, JLS. La console, c'est Nachuan Kale. À la présentation, Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. N'oublie pas, profitez de votre vie et vous apporte une seconde chance qui s'appelle demain. On se retrouve à 19h30 pour la troisième édition. VOA.